Voici les deux textes liturgiques pour ce 14e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de saint Paul aux Galates. Mes frères, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit va à l'encontre de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez, que si vous êtes conduits par l'esprit... Vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont bien connues. La fornication, l'impureté, l'impudicité, la débauche, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les discordes, les jalousies, les emportements, cabales, divisions, factions, envies, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies, les choses semblables, au sujet desquelles je vous préviens, comme déjà je vous ai prévenu, que ceux qui les commettent n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la douceur, la confiance et la modestie, la continence, la chasteté. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi, mais ceux qui sont au Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. On se lève pour l'évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Il ne peut servir de maître, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et dédaignera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez donc pas inquiets pour votre existence de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous revêtirez. Est-ce que l'existence n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas plus qu'eux? Et lequel de vous peut, en se tourmentant, ajouter à sa taille une seule coudée? Que vous inquiétez-vous alors des vêtements? Considérez les lys des champs comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent. Et je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, Dieu l'habille de la sorte, combien plus vous-même, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas, disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre. Car c'est tout cela que les païens réclament, et votre Père sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Veuillez vous asseoir. Quelques annonces. Alors attention, donc cette semaine je prêche une retraite, donc je vous recommande cette retraite pour cette personne à vos prières. Attention au niveau des messes, donc il y a messe ici lundi à 8h. Et pour ceux qui viennent à la messe en semaine, vous pouvez bien sûr venir à la messe au gîte, là où je prêche les exercices. Alors c'est les horaires, mardi, mercredi, 7h30, jeudi, 7h, vendredi, samedi, 7h30. Mais lundi, ici, à la chapelle, à 8h. J'ai donc commencé mercredi dernier le premier cours de doctrine d'une nouvelle série de conférences donc, qui sont sur le site, surtout sur le nouveau site dame-marie.net, en vidéo, donc vidéo et audio. Donc sur les actes du magistère, c'est l'explication de la doctrine de l'Église provenant des encycliques pontificales, les grandes encycliques du 19e et du début du 20e. Donc j'étais très agréablement surpris de voir que des gens ont bien répondu à cette conférence, puisqu'il y a eu plus de 600 personnes qui se sont connectées pour écouter la conférence depuis mercredi. C'est bien, je suis content que tout ça profite à la gloire du bon Dieu. Alors attention, mercredi prochain, donc pas de conférence à cause de la retraite, donc prochaine conférence le mercredi 21 septembre, toujours pareil, ici à 8h, de 8h du soir à 9h30. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, la liste des œuvres de chair contre la liste des œuvres de l'esprit que nous donne saint Paul aux Galates est impressionnante. Lisez. Fornication, impureté, impudicité, débauche, idolâtrie, maléfice, inimitié, discorde, jalousie, emportement, cabale, division, faction, envie, meurtre, ivrognerie, orgie. Bienvenue dans la France de 2022. Bienvenue dans la France républicaine. Bienvenue dans la France démocratique. Bienvenue dans la France laïque. Voilà le monde moderne. Contre ça, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Charité, joie, paix, patience, bénignité, bonté, longanimité, douceur, confiance, modestie, continence, chasteté. Pas besoin d'être polytechnicien pour voir que ces deux fruits sont tellement opposés qu'ils ne peuvent subsister ensemble sur le même arbre. C'est évident. Donc à partir du moment où vous avez les fruits de la chair sur l'arbre de votre âme, les fruits de l'esprit tombent. Si au contraire nous avons sur l'arbre de notre âme les fruits de l'esprit, c'est les fruits de la chair qui tombent. Et pour bien expliquer justement ce combat terrible entre d'une part l'esprit de la chair et d'autre part l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Paul explique les conséquences. Si j'accepte sur l'arbre de mon âme les fruits de la chair, je ne posséderai pas le royaume des cieux. Si au contraire, j'ai sur l'arbre de mon âme les fruits de l'esprit, à ce moment-là, j'appartiens au Christ. Et je pourrais crucifier ma chair avec ses vices et ses convoitises, dit Saint Paul. Les choses sont claires. Ce texte est absolument fondamental, certainement le chapitre 5 de Galates, l'épître de Saint Paul aux Galates est certainement un des textes les plus importants du Nouveau Testament. Et cela nous fait rentrer, si vous voulez, dans ce qui est sans doute la chose la plus difficile pour nous catholiques à accepter. Ce combat terrible. Être catholique aujourd'hui, c'est se battre. Nous sommes des soldats, mes bien chers frères. Et beaucoup de gens viennent nous voir en disant, monsieur l'abbé, j'aimerais tant avoir une petite vie bien tranquille, sans problème. Pas possible. Petite vie bien tranquille, sans problème, vous l'aurez au paradis, mais pas avant. Vous voulez avoir une petite vie bien tranquille, sans problème, faites-vous protestant. Mais comme catholique, c'est impossible. Mais monsieur l'abbé, notre Seigneur Jésus-Christ n'est-il pas le prince de la paix? Notre Seigneur Jésus-Christ n'est-il pas justement celui qui va rassembler tout le monde? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis venu apporter la guerre. Je suis venu apporter le feu. Il suffit de regarder, ouvrir la Sainte Écriture. Tout est là-dedans. Regardez le début. Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu crée les anges. Il y a un royaume de paix, c'est bien le royaume des anges. Qu'est-ce qui se passe? La guerre. Tout de suite. Division entre les bons anges et les mauvais anges. Les mauvais anges, en suivant Lucifer, vont hurler « Nous ne servirons pas !» Ils sont tous mis dehors. Et Dieu est obligé de créer l'enfer pour punir les mauvais anges. Après, il crée les hommes. Il crée les hommes, en paradis terrestre. Il leur donne tout ce qu'il faut. Il leur donne des dons extraordinaires. Les dons préternaturels. On peut croire que la paix va enfin revenir dans le monde. Tout de suite, désobéissance. Désobéissance, Satan trompe Adam et Ève. Et Dieu est obligé de nouveau de relancer la guerre. Je mettrai entre toi et la femme, dit-il au démon, entre toi et la Sainte Vierge, je mettrai une inimitié. Entre ceux de ta race et ceux de sa race, je mettrai une guerre totale, absolue. C'est ça le monde moderne. Parce qu'après, notre Seigneur Jésus-Christ va arriver, alors on peut se dire, fin de la guerre. Notre Seigneur Jésus-Christ vient dans ce monde, ça y est, c'est la paix qui arrive. Il est le prince de la paix, n'est-ce pas? Pas exactement. Dès qu'il arrive, Hérode cherche à massacrer notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le massacre des saints innocents. Et lorsque la très sainte Vierge Marie arrive au temple de Jérusalem, parce que l'enfant Jésus est tout petit pour présenter son enfant nouveau-né, le créateur du monde, le sauveur du monde, celui qui est justement le prince de la paix. Qu'est-ce que dit Siméon? Saint Siméon. Cet enfant sera un signe de contradiction. Cet enfant sera un signe de contradiction pour la chute ou la résurrection. Et un glaive de douleur te percera l'âme, transpercera ton âme. Voilà, mes bien chers frères, le résumé de l'action de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'on a un mal fou à comprendre, parce qu'on est tellement imprégné de libéralisme qu'on espère avoir la paix ici-bas. La paix ici-bas, mes bien chers frères, est absolument impossible. Absolument impossible. La paix, on l'aura au ciel. À partir du moment où quelqu'un se convertit, à partir du moment où quelqu'un veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, le démon s'en mêle, évidemment. Son travail, c'est quoi? C'est de nous empêcher de monter au ciel. Certes, un catholique doit pouvoir, malgré la guerre dans laquelle nous sommes, un catholique doit pouvoir conserver la paix intérieure. Mais être catholique, c'est être un battant. Être catholique, c'est être un soldat. C'est bien pour ça que le bon Dieu nous appelle des soldats par le sacrement de la confirmation. Le sacrement de confirmation fait de nous des soldats du Christ. Alors, par les lectures de ces textes magnifiques, il faut comprendre que nous participons à ce combat gigantesque entre les forces du mal contre les forces du bien. Et l'Évangile, ce n'est pas pour rien que l'Église a choisi, en parallèle de ce texte de saint Paul aux Galates, il a choisi un Évangile qui dit exactement la même chose. Même message, l'évangile de saint Matthieu, chapitre 6, « Nul ne peut servir de maître. Car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et dédaignera l'autre. » Notre Seigneur Jésus-Christ en rajoute une couche. Et je vous assure, mes bien chers frères, si nous comprenons ces choses-là, c'est la clé pour vivre comme catholique. Ôtons-nous de notre esprit cette idée qu'être catholique, c'est pouvoir vivre dans la paix, une petite vie, mais tranquille. C'est absolument impossible. Les catholiques ont toujours été persécutés. Et l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ est une sainte catholique apostolique et persécutée. À tel point que si nous comprenions que l'Église moderne, que l'Église catholique ne serait plus persécutée par le monde moderne, ça voudrait dire que l'Église n'est plus catholique. Être catholique, c'est persécuter. Être catholique, c'est être persécuté par le monde, par le démon, par ses puissances, par ses œuvres. Pourquoi? Parce qu'il y a cette haine. Tout l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ est un esprit de charité. L'esprit du démon est un esprit de haine. Comment pouvez-vous mettre dans un même cœur la haine et la charité? C'est impossible. Donc la haine va correspondre aux œuvres de chair. La charité va correspondre aux œuvres de l'esprit. Si je mets la charité, c'est-à-dire l'état de grâce dans mon cœur, notre Seigneur Jésus-Christ va remplir mon cœur avec ses fruits du Saint-Esprit. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le premier de ses fruits de l'esprit, la charité, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la douceur, la confiance, la modestie, la continence, la chasteté. Si au contraire, je mets dans mon cœur, hélas, par le péché, les œuvres de chair, si j'ouvre la porte au démon, même si je ne demande pas au bon Dieu de partir de mon âme, par le seul fait que j'ouvre la porte au démon, immédiatement c'est le démon, et pas que j'ouvre la porte au démon, c'est notre Seigneur qui s'en va. On ne peut pas demander à notre Seigneur Jésus-Christ de vivre dans une âme qui appartient au démon. Et tout de suite, c'est le contraire. Relisez cette liste. Fornication, impureté, impudicité, débauche, idolâtrie, maléfice, inimitié, discorde, jalousie, emportement, cabale, division, faction, envie, meurtre, ivronnerie, orgie. Vous vous demandez pourquoi cette liste est si longue? Ouvrez les yeux, mes bien chers frères. Ouvrons les yeux dans le monde moderne, où nous sommes enfants de Dieu, héritiers du Christ, où nous sommes enfants du démon. Il y a des bâtards. Ou nous suivons notre Sainte Vierge Marie qui dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait en moi selon votre parole. » Ou au contraire, « Je suis le démon qui hurle, je ne servirai pas. » Ou « Je suis Dieu fait homme, en m'associant au mystère de l'incarnation. » Ou au contraire, « Je m'associe à l'homme qui prétend devenir Dieu. » Voyez, mes bien chers frères, il faut comprendre ces choses-là. Je vais vous donner un exemple tout simple que Mgr Lefebvre nous a souvent expliqué. Pendant des siècles et des siècles, l'Église a envoyé dans les, ce qu'on appelait les pays de mission, des pays qui ne connaissaient pas l'Évangile. L'Église catholique a envoyé des missionnaires qui sont venus prêcher notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Et ils sont faits dévorer par les moustiques, parfois dévorés par les sauvages eux-mêmes. Ils ont vécu des vies pénitentielles extraordinaires. Et Monseigneur les a fait, les a bien connus, ces missionnaires, puisqu'il était délégué apostolique. Délégué apostolique, je ne sais pas si vous voyez le rôle de cet évêque, Monseigneur Lefebvre, délégué apostolique de toute l'Afrique francophone. À son époque, c'était pratiquement la moitié de l'Afrique. Donc c'est lui qui nommait tous les évêques. C'est nommé tous les évêques. Les supérieurs de tous les catholiques d'Afrique française. Et les missionnaires, selon la coutume, revenaient passer un ou deux mois en famille, une fois tous les 10 ans, parfois une fois tous les 20 ans. Donc les supérieurs leur faisaient quitter leur mission pour un mois ou deux, prenaient le bateau et puis ils rentraient en Europe pour voir un peu leur famille, une fois tous les 10 ans, une fois tous les 20 ans. Et Mgr Lefebvre nous expliquait, quand ces braves missionnaires revenaient en Europe, qu'une envie, c'est de repartir en mission. Et puis ils passaient un mois ou deux dans la famille, puis repartaient dans leur mission. Et après Vatican II, 1965, Mgr Lefebvre n'était plus supérieur général des supérieurs des catholiques en Afrique française. Et il nous a raconté, il nous a dit, après 65, ces missionnaires qui avaient passé toute leur vie dans une vie d'incroyable souffrance, si vous voulez, qui revenaient en Europe, sont venus voir leur famille, à la fin de leur séjour, leurs évêques ici en France les ont appelés et leur ont dit, mon père, vous êtes un peu fatigué. Alors, vous allez vous reposer maintenant. Mais moi, je n'ai pas du tout envie de me reposer. Je n'ai qu'une seule chose, c'est retourner dans ma mission et mourir parmi mes fidèles là-bas. Non. Vous êtes un peu fatigué. Alors, on vous envoie en maison de repos. Ça s'appelle des mouroirs, les maisons de repos. Et là, vous pourrez vous reposer. Mais je n'ai pas du tout envie de me reposer. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de continuer mon travail et de mourir parmi mes fidèles. Mais non. Mais pourquoi vous ne m'envoyez pas? Pourquoi je ne peux pas retourner? Vous comprenez, vous n'êtes plus capable de comprendre les nouvelles lois d'évangélisation. Vous pensez encore qu'il faut aller là-bas pour convertir. Il ne faut plus chercher à convertir, voyons. Il faut dialoguer. Il faut respecter la religion de ces braves gens. Donc, il faut respecter l'islam, il faut respecter les chamans du coin, il faut respecter toutes ces religions tribales qui sont magnifiques, voulues par Dieu. Alors, puisque manifestement vous n'êtes plus capable de faire ça, vous restez ici. Ils ont envoyé d'autres missionnaires à la place qui ont arrêté de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez ce qu'ils faisaient? Au lieu de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, ils allaient les aider à creuser des puits et à les nourrir. Très bien, créer des écoles, très bien. Mais ce n'est pas le rôle du missionnaire. Le premier rôle du missionnaire, c'est d'amener les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Mgr Lefebvre nous a expliqué, ces missionnaires sont se retrouvés en mouroir, ils sont morts de chagrin au bout de quelques mois, pratiquement tous les uns après les autres. Morts de chagrin de se rendre compte qu'ils avaient été trahis par les évêques. On leur a expliqué, on est allé jusqu'à leur dire, vous comprenez, les missionnaires d'avant Vatican II ne savaient pas comment prêcher l'Évangile. Un saint François d'Assise, un saint François de Sales, un saint François Xavier, qui n'a baptisé de sa propre main qu'un million d'âmes, ne savait pas comment prêcher l'Évangile, bien sûr. S'y explique, mes bien chers frères, ce combat terrible. Voilà pourquoi il y a cette parole qui se rajoute, nul ne peut servir de maître à la foi. Il faut, mes bien chers frères, comprendre ces choses-là. Qu'est-ce que nous demande le bon Dieu? D'être catholique. Pas simplement le dimanche, à la messe, mais d'être catholique dans sa façon de vivre, dans sa façon de se... De vivre dans sa famille, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale. Un catholique, ce n'est pas simplement un catholique qui est catholique le dimanche de 10h à 11h30, ça c'est facile. C'est ça qu'il faut distinguer entre ce que j'appelle le catholique du dimanche et le catholique de semaine. Le catholique de semaine, c'est celui qui a compris qu'il doit être catholique 24 heures sur 24. Le catholique du dimanche, c'est celui qui n'est catholique que le dimanche de 10h à 11h30. Eh bien, mes bien chers frères, le catholique du dimanche, c'est ça qui nous a tués. Ça nous a tués parce qu'on a oublié que notre Seigneur Jésus-Christ nous demandait d'être des missionnaires dans l'endroit où nous étions. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de partir au fin fond de l'Afrique pour trouver des territoires de mission. La France en est devenue un. On est encore plus pourri que les fausses religions qu'il y avait dans ces pays missionnaires du 17e, 18e, 19e siècle et début du 20e. Alors, mes bien chers frères, il faut comprendre, vous voyez, ces deux textes magnifiques, Saint Paul aux Galates et le texte de Saint Matthieu, comprendre justement quel est le message qui est donné derrière. En fait, c'est un message encourageant. Le bon Dieu nous envoie au combat. Nous sommes des soldats, mes bien chers frères. Et c'est pour cela que l'Évangile va nous rappeler, noli sollicitis, ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets des choses matérielles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en inquiéter complètement, il faut comprendre ce texte. Un père de famille, par exemple, doit s'inquiéter des choses matérielles. Il faut qu'il puisse payer les factures de la maison, il faut s'occuper de nourrir les enfants, il faut s'occuper d'avoir un minimum de confort pour la famille, pour l'épouse, etc. C'est son travail, bien sûr. Donc il faut être un peu inquiet. Mais il faut garder une hiérarchie des valeurs. D'où le dernier texte. À la fin de cet évangile, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, puis tout le reste vous sera donné par surcroît. Donc, se rappeler que nous avons un corps et une âme. Bien sûr, il faut s'occuper de notre corps. Le bon Dieu nous demande de maintenir notre corps en bonne santé autant que faire se peut, parce que le corps est utile pour aller au ciel. Mais nous n'avons pas qu'un corps, nous avons aussi une âme. Et maintenir notre âme en bonne santé, c'est bien plus important que maintenir notre corps en bonne santé. Parce que si je ne m'occupe que de mon corps et j'oublie mon âme, c'est l'hypocrisie pure et simple par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le monde moderne, encore une fois. Regardez toutes ces balivernes qu'on entend sur l'écologie. Il faut sauver les petites fleurs. Il faut sauver les baleines. Il faut sauver les bébés phoques. Très bien. Et à chaque fois que j'entends des gens venir me raconter ces balivernes, je dis, mais c'est bien ça. C'est très mignon, petite fleur. Petit bébé faux, ils sont charmants. J'espère que, bien entendu, vous militez aussi pour sauver les bébés humains. J'espère que vous luttez, bien sûr, de toutes vos forces contre l'avortement qui massacre 250 000 enfants dans le sein de leur mère tous les ans en France. Ah non, pas ça. Et j'ai remarqué que tous ceux qui veulent absolument sauver les bébés faux, comme par hasard, sont tous pour l'avortement. Et un problème. C'est ça l'hypocrisie du monde moderne. Se rappeler où sont les choses importantes, mes bien chers frères. Se rappeler où sont les choses importantes. Encore une fois, il faut pas mépriser de s'occuper des choses matérielles, parce qu'il faut faire les deux. Souvent, les gens le disent, monsieur Labieux, on s'occupe plus que des choses spirituelles, on s'occupe plus des choses matérielles. Même les moines d'Égypte qui vivaient dans des conditions de pénitence absolument invraisemblables étaient obligés de faire du travail manuel. L'Église avait interdit à ces moines, ces anachorètes, ou ces cénobites des débuts du siècle en Égypte, surtout en Haute-Égypte, l'Église avait interdit à ces moines, qui étaient pourtant des hommes extrêmement saints, de passer leur vie exclusivement en prière. Il fallait qu'ils fassent un travail manuel. Même la société religieuse la plus pénitentielle, c'est-à-dire l'ordre des Chartreux, ils sont obligés de faire le travail manuel. Justement pour équilibrer les choses entre le corps et l'âme. Il ne faut pas simplement s'occuper de son âme, il faut aussi s'occuper de son corps. Mais le corps pour l'âme. Pas l'âme pour le corps, c'est le corps pour l'âme. Je prends soin de mon corps afin que je puisse, avec mon corps, servir le bon Dieu. Donc je dois nourrir mon corps. Donc je dois prendre le minimum de soins de mon corps. Rappelez-vous, Saint François qui appelait son corps mon frère âne. Mais pour qu'un âne puisse porter sa, pour porter sa, puisse porter sa charge, qu'est-ce qu'il faut? Peut-être nourrir l'âne un peu. Si vous n'allez pas de l'avoine du picotin à l'âne, l'âne il va refuser de travailler. Donc il va s'occuper aussi de son corps un minimum, à condition que tout cela soit soumis justement à la toute-puissance de l'âme qui commande tout. C'est ça que l'évangile finit par cette belle parole, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Sur quoi le moins important c'est le deuxième, cherchez d'abord le royaume des cieux. D'abord s'occuper de l'âme, d'abord vivre pour que je puisse vivre en état de grâce. Je suis sur la terre pour sauver mon âme. Ceux qui vont suivre les exercices de Saint-Ignace, qu'on commence demain après-midi, on va commencer par ça, c'est la première phrase des exercices. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. Donc je suis sur la terre pour sauver mon âme. Je n'ai pas compris ça, je n'ai rien compris. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie, ces grâces dont nous avons besoin, justement, de ne pas tomber dans l'hypocrisie du monde moderne. Le monde moderne est un panier d'hypocrites, un panier d'hypocrisie. Justement, comprenons, nous sommes des soldats. Je dois donc mettre mon corps et mon âme au service de notre Seigneur Jésus-Christ pour que je puisse justement faire mon devoir d'État. Et quel est mon premier devoir d'État? Mon premier devoir d'État, c'est de sauver mon âme. Mon premier devoir d'État, c'est d'aider les gens dont j'ai la charge, à savoir mon épouse, mon époux ou mes enfants, et si j'en ai, et de m'arranger pour que tout ce beau petit monde puisse vivre en état de grâce. C'est ça mon devoir d'État. Et pour pouvoir vivre en état de grâce, pour que nous aider nos enfants à vivre en état de grâce, comme je ne peux pas donner ce que je n'ai pas, eh bien il faut commencer par se remplir du bon Dieu, c'est absolument évident. Malheur, malheur à celui qui, justement, c'est Saint Bernard qui parle, qui veut être canal avant d'être un réservoir, disait-il. Malheur à celui qui n'a pas compris qu'il doit d'abord se remplir du bon Dieu avant de pouvoir irriguer les plates-bandes du jardin. Il faut d'abord que notre réservoir soit plein du bon Dieu, d'où la nécessité d'une vie de prière personnelle, la nécessité d'une vie sacramentelle personnelle avec l'usage de la communion, l'état de grâce, bien sûr, l'usage de la confession, l'usage de la vie de pénitence, l'usage de la vie de prière, notre chapelet tous les jours, la prière du matin, la prière du soir, pour se remplir justement. Il faut que chaque fois que vous venez à la Sainte Messe le dimanche, mes bien chers frères, il faut que vous remplissiez votre âme du bon Dieu, vous remplissiez votre âme aussi de cette paix de notre Seigneur Jésus-Christ, cette paix, cette charité, cette bénignité, cette bonté, tous ces fruits du Saint-Esprit. Il faut que lorsque vous quittiez la chapelle après la messe du dimanche, vous en soyez rempli. Je vous ai expliqué au début de ce sermon que si vous remplissez des fruits de l'esprit, les fruits de la chair s'en vont, puisque les deux sont incompatibles. Donc si vous remplissez du bon Dieu par la confession, par la communion, par une bonne vie de prière et une vie de pénitence, à ce moment-là, les fruits de la chair s'en vont. Et donc vous allez pouvoir devenir un instrument de la conversion des autres. Rappelez-vous, ces protestants, je vous ai déjà souvent cité cet exemple, ces protestants qui étaient allés voir le Saint-Curé d'Ars, au temps du Saint-Curé d'Ars, qui rentre en Angleterre et qui demande à ses petits copains, ses petits amis lui demandent, alors t'as vu quoi? Je suis allé voir un homme et j'ai vu Dieu, dit-il. Je suis allé voir un homme et j'ai vu Dieu. Il faut se rappeler les choses importantes, mes bien chers frères. Sinon, on perd complètement le sens de la réalité. Regardez ce qui se passe actuellement. Un autre exemple que je vous donne. La reine d'Angleterre vient de mourir. Alors maintenant, évidemment, elle est morte. Alors, c'est des éloges dithyrambiques sur la reine d'Angleterre. Il ne faut peut-être pas oublier que la reine d'Angleterre, c'était avant toute chose la chef de l'église anglicane, la chef d'une église protestante, la chef d'une fausse église, donc. Ça n'empêche pas ses qualités naturelles qu'elle avait certainement comme tout le monde. Il y avait une dignité, un respect, une force de caractère dans la reine d'Angleterre, j'aurais bien aimé voir chez Monsieur Macron. Bon, c'est absolument évident. Ceci n'empêche pas, attention, il manquait l'essentiel. Bien sûr, il faut prier pour elle. C'est notre devoir d'État. Mais il faut en même temps se rappeler où sont les choses importantes. Les choses importantes, sauver mon âme. Les choses importantes, maintenir mon âme en état de grâce, pour que je puisse être un tuteur pour ceux dont j'ai la charge. C'est ça le rôle des parents. être un tuteur pour aider les âmes de mes enfants à monter vers le bon Dieu. Alors, demandons l'aide de la Très Sainte Vierge Marie, puisque la Très Sainte Vierge Marie est celle qui a été choisie par le bon Dieu, par son divin Fils, pour obtenir toutes ces grâces. Le bon Dieu a voulu que la Très Sainte Vierge Marie soit l'instrument des grâces. C'est pour ça que les protestants ont mal fou à avoir ces grâces de conversion. Pourquoi ? Parce qu'ils détestent la Sainte Vierge. Ils détestent la Sainte Vierge. Un des signes du protestantisme, c'est le mépris de la Très Sainte Vierge Marie. Et si je méprise la Très Sainte Vierge Marie, je ferme le robinet du canal qui m'amène les grâces. Ah, évidemment, je ne peux pas avoir grand-chose. Alors, je vais me dessécher. Nous, nous avons la chance d'être catholiques. Un catholique, c'est quelqu'un qui doit avoir en son cœur un amour débordant pour sa mère. Nous avons deux mères, une mère ici-bas et une mère au ciel. Alors, demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses, mon bien cher frère, même si ce n'est pas très facile. Comprendre toutes ces choses, les mettre en pratique pour que nous puissions un jour, avec la grâce du bon Dieu, tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.